Et après, je vous libère. Voilà, alors, cette quatrième partie qui va brasser beaucoup de choses. Dans le dossier, j'ai fait un document assez long. Comme ça, vous pourrez retrouver tout ce que je n'ai pas dit. Et en plus, vous avez devoir avoir la tête qui commence à partir dans tous les sens. Cette quatrième partie, elle voudrait répondre à votre question. Comment on passe de ces premiers écrits, de cette première mise par écrit des évangiles, jusqu'à ce que nous avons appelé, ce que l'Église a appelé le canon des Écritures, en tout cas pour les Écritures chrétiennes, et qui a donné notre Nouveau Testament. Ça va ? Voilà, donc vous voyez que je me situe en gros entre 60 et alors le canon des Écritures, ça sera 300, enfin il faudra des siècles, hein, un ou deux siècles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et je l'évacue tout de suite, que les premiers écrits chrétiens, ce dont nous avons des traces, parce que ça a été recopié à travers les siècles, et nos traces sont très anciennes, parce que les premiers manuscrits datent de l'an 200, et que c'est quand même extraordinaire d'avoir un manuscrit écrit de 150 ans à 130 ans de distance seulement. Les premiers écrits chrétiens, c'est les lettres de Paul. Donc, si vous voulez, ce que nous avons comme première attestation, c'est ce Paul qui affirme d'emblée « Dieu a révélé son Fils en moi, hein, le Seigneur Jésus-Christ ». Donc cette première dimension de divinité de Jésus qui est pourtant, et qui est Paul le dit fermement, celui qui a été crucifié. D'où un retour absolument extraordinaire et très difficile sur « Mais enfin, celui qui a été crucifié, c'est en lui que Dieu a manifesté, c'est lui que Dieu a manifesté comme son Fils ». Et qui a été envoyé comme le Fils. Donc une image de Dieu qui est tout à fait à l'opposé du Dieu transcendant loin, loin, loin de la philosophie ou même de la Kabbale. Un Dieu qui est venu en son Fils souffrir, mourir. Ça, c'est Paul. Alors, ensuite, je vous ai dit, il a fallu du temps, mais on voit que quand même le temps n'a pas duré trop longtemps. On est avant la fin du premier siècle. Donc, on est entre les années 60 et 80, 90. Il a fallu du temps pour que les premiers témoins disparaissants se rendent compte qu'il fallait équilibrer la foi paulinienne par ce retour à la vie de tous les jours de Jésus. Et par cette façon de raconter Jésus pour montrer qu'il a un style qui interroge, qu'il faut vraiment revenir au jour de sa vie pour entrer dans l'interrogation que nous force à nous poser la façon de vivre de Jésus, ce qu'on appelle aujourd'hui le style de Jésus. Je vous ai dit, il y a des choses probablement qui, en araméen ou en grec, se sont mises par écrit, très certainement assez tôt, moi je pense dès les années 40 ou 50, dans ces tout petits groupes chrétiens qui ont commencé à naître. Le principe de la foi chrétienne, ça consiste à évidemment reconnaître le Seigneur ressuscité comme Fils de Dieu, mais à le reconnaître comme les prémices, le début de la création nouvelle. Et la création nouvelle, c'est une création dont le maître mot est la fraternité. Les chrétiens se sont appelés frères entre eux tout de suite, hein, et dont le principe est qu'on se rassemble, Dieu rassemble. Par sa bonne nouvelle, Dieu rassemble quelques-uns, son peuple, et au-delà de son peuple, toute l'humanité. Et donc les chrétiens ont commencé par se rassembler. Paul appellera ça des petites assemblées ou églises, qui veut dire la convocation. On est convoqué à se rassembler et à vivre en frères. Dans ces petits groupes chrétiens, les problèmes d'enseignement pour ceux qui arrivaient, de réflexion pour tout le monde, de liturgie, de célébration, puisque tout de suite, on s'est mis à célébrer le repas du Seigneur. Alors, on ne sait pas exactement quand, le lendemain du sabbat, le soir, le matin, ça a duré au moins un siècle et demi pour se mettre au point. Enfin, tout de suite, on le célèbre, puisque à Corinthe, Paul est déjà obligé d'intervenir pour dire qu'ils font tout n'importe comment. On le célèbre tout de suite. Et tout ça, ça demande effectivement des paroles, de la liturgie, des hymnes, etc. Donc, ils se sont mis certainement à écrire petit à petit des choses. On distingue souvent, dans les évangiles qui en sont, au fond, un rassemblement, là aussi, un tissu, on distingue souvent ce qui a pu être très tôt mis par écrit dans différents milieux de vie. Alors ça, c'est de la technique, si vous voulez, aujourd'hui, exégétique, mais c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des morceaux d'évangile qui appartiennent davantage au genre catéchétique de la transmission. On vous fait une liste des enseignements de Jésus. Ou alors, on a une liste de ces actes de puissance qu'on a appelés miracles, mais les évangiles synoptiques disent actes de puissance. Vous allez avoir tout un chapitre ou deux où on va avoir juxtaposé les guérisons, les exorcismes, les retours de Jésus auprès des lépreux, etc. D'accord ? On a mis ensemble des collections du souvenir d'actes de Jésus qui s'est approché des plus malheureux, des plus pauvres pour les relever. On a fait ensemble aussi des collections de paraboles qui à la fois révélaient le dessein de Dieu, qui il était Jésus, et la façon dont il proposait de se conduire et de choisir ou de ne pas choisir, enfin de prendre position dans les problèmes de l'existence. Ça va ? Donc on a ainsi essayé de montrer qu'il y a que les évangiles révèlent qu'il y avait derrière un matériel catéchétique, un matériel liturgique, des proclamations de foi, des bouts de prière. Jésus enseigne à ses disciples à prier. Le Notre Père était prié dans les groupes chrétiens. Ça vient des évangiles. Il y a aussi des passages qui sont proprement des passages d'enseignement à la mission. Jésus envoie les disciples et leur dit « Prenez ou ne prenez pas, faites ceci, passez de maison en maison, ne vous arrêtez pas. Si on vous refuse l'entrée, partez, ne vous incrustez pas, n'essayez pas, secouez la poussière de vos chaussures. » Qui veut dire « Laissez, laissez, ne vous incrustez pas. » On a des milieux de vie comme ça, ou des moments de la vie qui nécessitaient qu'on mette par écrit des séries de récits. Alors, les premiers récits sont certainement liturgiques, et le premier de la vie de tout le monde, de tous, est le récit de la Passion. Le récit du dernier repas de Jésus, puisque faites ceci en mémoire de moi, ils l'ont fait tout de suite, en disant ou en ne disant pas les paroles, ça a dépendu des régions, ils l'ont fait tout de suite. Et ils ont sûrement aussi encadré ce repas du Seigneur de psaumes, de prières, et très vite de récits de la Passion. Et les récits de la Passion dans les quatre évangiles, même s'ils sont différents, ont quand même des noyaux communs forts. Mais, comme je vous l'ai dit, on a aussi les groupes de paroles, d'enseignement, de paraboles, de miracles ou actes de puissance, etc. Et on a dans les enseignements ce qu'on a appelé d'un mot un peu technique, c'est du grec « logia ». Logia, ça veut dire les paroles enseignées. C'est pas loin de logos, la parole, hein, c'est un dérivé. Les paroles enseignées, c'est, dans certains évangiles, c'est très net, par exemple, au chapitre 17 de Luc, sur un sujet donné, par exemple le sujet de la richesse, chapitre 17 de Luc. Vous verrez qu'il y a divers enseignements de Jésus qui, au fond, sont plus juxtaposés que bien coordonnés entre eux. On ne voit pas pourquoi on accumule comme ça des choses parfois un peu disparates, sinon qu'il y a le même thème. Ces séries, ce regroupement d'enseignements de Jésus par thème, on les a appelés des logias. Ça va ? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces logias en particulier, on les trouve chez Matthieu et chez Luc, l'ordre n'est pas le même, mais on a découvert, beaucoup plus tard dans l'histoire, mais ça remonte au IIe siècle, ce fameux texte qu'on appelle l'évangile de Thomas, qui n'est pas un évangile en ce sens qui raconte pas le chemin suivi par Jésus, mais c'est une série d'enseignements avec une ou deux petites paraboles, et ces enseignements correspondent très largement aux séries de Luc et de Matthieu, avec l'ordre plutôt de Luc. Ça va ? Et donc, on considère qu'on a là la source commune ou une source commune aux trois textes, qui réapparaît à divers endroits et qui était donc probablement antérieur. Il existait d'assez longtemps, c'est des groupes comme ça, des regroupements d'enseignements, que Matthieu d'un côté, Luc de l'autre, et l'évangile du dénommé Thomas, mais qui n'est pas le disciple, de notre côté, ont utilisé. Ça va ? Alors, à partir de là, de tout ce matériel, les évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, je vous fais remarquer tout de suite que nos évangiles, que nous appelons trop facilement de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, ne sont pas dénommés ainsi dans les textes. Ils s'appellent évangile d'après, selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, selon Jean. Vous ne trouvez nulle part l'évangile de Jean. Le seul qui dit mon évangile, c'est Paul, parce que c'est ma proclamation, ce que je suis en train de vous annoncer. Mais l'évangile, en tant que récit constitué, et donc à un moment donné mis par écrit, il est toujours selon ou d'après. On se réfère à un apôtre fondateur ou à un chef de communauté particulier qui a certainement enseigné, eu son importance et peut-être donné l'essentiel. N'empêche qu'on ne prétend pas que c'est copie conforme avec ce qu'il a écrit lui-même. Ça va ? Voilà. Il y a toujours cette prudence et cette distance. Les évangiles sont selon. Alors, ces évangiles, ils sont apparus à partir de tout ce matériel et on constate pour trois d'entre eux, Marc, Matthieu et Luc, qu'il y a de grandes proximités. Le récit le plus court, c'est celui de Marc. Or, le récit de Luc ajoute un évangile de l'enfance qui n'y est pas chez Marc, suit à peu près parfaitement Marc et à un moment donné, distant la montée de Jésus à Jérusalem qui dure un chapitre et demi chez Marc sur presque 10 chapitres chez Luc. Distant cette montée à Jérusalem et y insère tout un tas d'épisodes d'enseignement, de paraboles de Jésus. Et puis retrouve essentiellement Marc au récit de la Passion. Matthieu est construit très différemment. Il est construit autour de 5 grands discours ou enseignements de Jésus. Et donc, vous retrouvez un peu aussi la trame de Marc. Jésus est d'abord en Galilée et ensuite à Jérusalem. Mais avec beaucoup, beaucoup de matériel qui est construit différemment. Donc, ils avaient probablement des matériaux communs et aussi des matériaux que tout le monde ne partageait pas. Et ils ont chacun construit un évangile cohérent selon un projet propre qui est une façon de dire qui était et qui savent qui est aujourd'hui ce Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça va ? Et de vous le faire découvrir. Alors, évidemment, les biblistes se sont posés beaucoup de questions sur les rapports entre ces évangiles, qui est le premier, qui a inspiré l'autre, qui... un tas de questions qu'on peut se poser. Il y a une méthode, vous n'allez rien y voir, mais ça n'a pas d'importance, qui consiste à les mettre en colonne en faisant se correspondre les parties correspondantes. Ça s'appelle une synopse en grec, une vue ensemble, et c'est pour ça qu'on parle d'évangile synoptique. Ça marche ? C'est parce qu'en gros, sauf tout le début de Luc, par exemple, et un milieu, le chapitre 9 à 10, à 15, un certain nombre de discours de Matthieu, on arrive quand même à faire correspondre des choses de très près. Et on peut même, comme dans le récit ici de la tempête apaisée, les mettre très en parallèle. Et après, si vous voulez faire un travail tout à fait précis, vous prenez des crayons de couleur et vous coloriez en marron. Je ne vous l'ai pas fait parce qu'on n'y voit rien sur le PowerPoint. En marron, ce qui est commun aux trois. C'est vachement intéressant. Prenez un petit texte comme ça, c'est très court. Il y a quelques versets. Vous copiez en marron, coloriez en marron ce qui est commun aux trois. Vous coloriez en bleu ce qui est commun à Matthieu et Luc. Je dis n'importe quoi. En jaune, ce qui est commun à Luc et Marc. Et en vert, ce qui est commun à Marc et Luc. Et ben, c'est très intéressant. Et après, il reste ce qui est propre à chacun. Mais c'est très intéressant, ce qu'on voit au bout du compte, c'est qu'au fond, ils racontent la même histoire et ils ne disent pas du tout la même chose. Pour la tempête apaisée, c'est étonnant. C'est étonnant. Le Jésus de Matthieu, il est le Seigneur, qui est le maître des éléments. Il est là dans la barque, la tempête se lève. Évidemment, les disciples le prient, Seigneur, sauve-nous, comme s'il s'adressait à Dieu. Nous sommes en train de périr. Et Jésus commence par à leur dire du calme. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? De quoi vous avez peur ? Après, divinement, il se dresse contre la mer et il est le maître de la mer, il apaise la mer. Voilà. Et donc, il n'y a qu'à le reconnaître comme déjà à travers un épisode de sa vie qui était probablement un épisode où ça avait mal tourné sur le lac, le Seigneur maître des éléments, le Fils de Dieu qui est déjà maître de la création. Chez Marc, ce n'est pas du tout comme ça. D'abord, il y a plusieurs barques. C'est les disciples qui l'ont embarqué avec lui, visiblement. Il était fatigué, il n'avait pas envie. À peine il est dans la barque, il s'endort. Il dort au fond de la barque, tranquille. La tempête se lève. Les disciples le secouent, furieux, en lui disant, mais en fait, tu nous laisses périr, comme si il fallait qu'il fasse quelque chose. Tu ne te soucies pas que nous périssons. Lui apaise la mer exactement dans les termes dont il chasse les démons. On a là une lutte contre les forces du mal. Et après, il dit aux disciples, mais vous n'avez pas la foi. Votre foi, elle est minuscule. Et alors là, on a vraiment un enseignement sur la prière. La prière comme, voilà, manque de confiance ou confiance, on ne sait pas bien. Ils ont dû le secouer parce qu'il dormait. Et pourtant, ils étaient en danger, mais lui dormait. Alors, ils lui ont fait suffisamment confiance ou pas assez. Il y a toute une réflexion là-dessus. Bon, chez Luc, c'est encore autre chose, j'arrête. Mais vous voyez qu'en travaillant comme ça, on voit des différences étonnantes. Il n'y a que chez Matthieu que Jésus est appelé Seigneur. Il y a des noms différents chez Marc, maître, avec un autre mot chez Marc, commandant même chez Luc. Bon. Voilà, un travail qui peut paraître un petit peu dérisoire, etc., mais qui montre que chaque évangéliste a vraiment son point de vue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la constitution de ces évangiles? Il y a des tas d'hypothèses diverses, et je vous les évite, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on dit, en gros, aujourd'hui, d'à peu près raisonnable? Ça ne veut pas dire que dans 20 ans, on ne dira pas autre chose. Mais comme je ne suis pas dans 20 ans, je vous dis ce que je crois, moi, aujourd'hui, d'à peu près raisonnable. On considère que le récit mis par écrit le plus ancien, en grec directement, et peut-être même à Rome, parce qu'on voit qu'il fallait traduire un certain nombre de mots en latin. Il y a des mots qui sont décalqués du latin en grec. Donc, est-ce qu'on ne parlait pas latin aussi un peu dans la communauté de Marc? Le plus ancien est probablement cet évangile très court qui est l'évangile de Marc. Alors après, on a un témoignage du IVe siècle qui dit effectivement Marc était avec Pierre à Rome et il écrivait à mesure que Pierre dictait. Bon, enfin ça date de 4 siècles après. Mais on reconnaît effectivement dans cet évangile de Marc probablement le premier, très court, et qui correspond probablement à une période romaine où un certain nombre de chrétiens avaient été persécutés les années 65-70, en tant que chrétien ou en tant que... probablement par Néron, mais probablement aussi parce que ces chrétiens étaient tout à fait dans une excitation messianique qui attendait le Seigneur du jour au lendemain, qui allait bouter dehors l'empereur romain. Et l'évangile de Marc calme le jeu. Calme le jeu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui passe par la croix. Il ne passe pas tout de suite par la gloire. Cet évangile, on ne sait pas trop le dater, mais on dit 69, 70, comme vous voulez. Moi, à 5 ans près, j'en sais rien. Bon. Il a fortement influencé Luc, qui suit. Il a aussi beaucoup influencé Matthieu. Alors après, quand on est dans les chiffres, je vous les ai donnés, donc vous ne notez surtout pas, mais on a des chiffres étonnants. Il y a l'évangile de Marc, un peu plus de 600 versets. Luc, c'est 1200. Matthieu, c'est 1000. Eh bien, il y a 330 versets identiques entre les trois. Ça fait quand même la moitié de Marc, un tiers des autres. Hein. Donc, ils ont quand même fameusement recopié. Et ensuite, on a Luc et Matthieu qui ont le même matériel, eux aussi, sur 200 ou 250 versets. Vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup après pour chacun. Donc, voilà, on pense effectivement que Marc est le premier, qu'il a largement été utilisé par les autres. Et la partie commune à Luc et Matthieu qui n'est pas chez Marc, ce sont justement ces enseignements ou logia, ces petites phrases d'enseignement de Jésus qui veut gagner sa vie, la perdra. Hein. Il faut choisir entre deux maîtres, Dieu et l'argent, ou mammon, l'argent, l'idole de l'argent. On ne peut pas servir les deux. Des petits enseignements comme ça, très courts. Cette partie d'enseignement qui fait à peu près 150 ou 200 versets, qui est chez Matthieu et Luc, et qui est aussi dans l'évangile de Thomas, on a décidé, au cours du XXe siècle, et surtout vers la fin du XXe siècle, qu'il devait dépendre d'une source précédente, d'un catalogue précédent déjà établi avant eux, et qu'on a appelé du nom allemand de Quelle ou Quelle, la source, précisément la source. En français, ça a donné la source Q, c'est pas très joli. Mais c'est comme ça. Voilà. Ça s'appelle la source. Et c'est quoi? C'est la source des enseignements. C'est un texte. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, il est publié, ce texte. Et c'est une hérésie. Il n'a jamais existé. C'est une reconstruction C'est une reconstruction contemporaine à partir des matériaux communs de Luc, Mathieu, Thomas pour dire voilà quelle a été leur source. Maintenant, on vous la fait lire. D'accord. Mais enfin, voilà, ça marche jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Mais voilà ce qu'on considère aujourd'hui, qui est en gros deux sources principales. D'un côté, Marc, premier évangile, de l'autre, cette source d'enseignement que Marc ne connaît pas, il ne les a pas, et qu'on retrouve chez Matthieu et Luc. Ça marche ? Après, les deux autres évangiles, ils combinent chacun à sa façon les deux sources. Et puis, évidemment, comme ils ont aussi chacun 100 ou 200 versets totalement originaux, on considère qu'il y a un bien propre, on appelle ça d'un joli nom, mais ça ne veut rien dire, un bien propre à Matthieu, un bien propre à Luc, ils ont trouvé d'autres sources, chacun pour raconter leurs évangiles. Ça marche ? Voilà. C'est le schéma le plus simple et le plus, j'allais dire, répandu, accepté aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est à la fois cette, au fond, cette proximité des trois évangiles. Finalement, 300 versets communs sur 600 chez Marc, et le reste qui n'est pas si loin, une partie est avec Matthieu, une partie avec Luc, c'est quand même étonnant. À la fois cette proximité, et comment, à partir donc d'un matériel très proche, chacun a vraiment montré autrement le chemin d'accès à la proclamation de foi « Jésus est Seigneur ». Et on le voit bien dans cette tempête apaisée. Pour Matthieu, il est d'emblée le Seigneur maître de la mer et des cieux. Pour Marc, il est celui qui dort au fond de la barque et qui vous laisse périr sans rien dire. Et on est en train de mourir et il ne fait rien, il faut le secouer, quoi. Il va faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour Marc, il est davantage le Dieu qui se tait et qui vous laisse souffrir. Et on a vécu les persécutions à Rome et voilà, et les chrétiens sont morts et il n'est pas venu, hein. Il n'est pas venu les sauver. Voilà. Et qu'il faut comprendre. Luc travaille davantage dans la présentation plus historienne d'un Jésus qui va, on va faire mener les Grecs et les païens à reconnaître qu'il est un prophète, mais qu'il est plus que ça, etc. C'est plus didactique chez Luc et plus biographique. Voilà. Chacun a son point de vue. Et vous avez aussi un quatrième. Alors, les années, quand est-ce que ça a été écrit ? Bonne dame. On date généralement Marc des années 70-75. Mon collègue Michel Quesnel me dit non, 69. Allez, va pour 69. On date généralement, et là il est d'accord, Matthieu et Luc des années 80-90 ou 80-85. L'évangile de Jean est certainement plus tardif. Il représente, il y a aussi un matériel très semblable et en même temps, lui, très différent. Jean a un bien propre, aucun des récits d'actes de puissance de Jésus chez Jean devient chez les synoptiques. De plus, il y a chez Jean un certain nombre d'éléments qui ont été vérifiés par l'archéologie. Donc des souvenirs extrêmement précis que l'archéologie a vérifiés en retrouvant le dallage du palais d'Hérode, en retrouvant un certain nombre de choses. Il y a chez Jean une enveloppe temporelle qui est aujourd'hui adoptée par tout le monde, qui est beaucoup plus large que dans Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, en une année, Jésus apparaît, prêche la bonne nouvelle en Galilée, monte à Jérusalem, une fois, est arrêté, crucifié, mort, et voilà, résurrection. Chez Jean, on voit bien que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que ça a duré au moins 3 ans. Il y a au moins 3 fois où Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est beaucoup plus vraisemblable, parce que le schéma de Marc, comme ça, en 5 minutes, il ne tient pas la route au point de vue vraisemblance. Voilà, donc on dit avec Jean qu'effectivement, Jésus a certainement commencé à parler dans l'année 27 et qu'il a dû mourir en avril 30. Que là, l'évangile de Jean est beaucoup plus vraisemblable et certainement beaucoup plus proche d'une réalité historique, évidemment, on ne joint pas autrement, mais toute l'histoire ancienne est comme ça, que les autres. Et en même temps, l'évangile de Jean est un évangile qui est une véritable méditation christologique, théologique, sur Jésus qui est un avec le Père, qui va déjà beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la divinité de Jésus que les synoptiques. On dit toujours un groupe à tendance mystique et on parle aujourd'hui d'une trajectoire de l'école johannique. Alors, on sait que Jean l'apôtre est mort très vieux, mais dès le IIe siècle, les pères de l'Église se sont demandés si c'était vraiment l'apôtre Jean, s'il n'y avait pas un autre Jean. Et puis, il y a aussi l'ancien qui écrit les lettres, et puis il y a le voyant qui écrit l'Apocalypse. Enfin, qui a écrit l'évangile de Jean dès le IIe siècle? Il y a un débat entre les pères de l'Église. Si vous voulez entrer dans le débat, je peux vous donner les références, mais bon, ce n'est pas le lieu. Mais la réflexion actuelle, c'est que c'est probablement un évangile qui a été écrit par ajouts successifs. Et ça se voit très bien dans les discours de Jésus après le dernier repas, qui dans l'évangile de Jean a lieu au chapitre 13. Et ensuite, vous avez jusqu'au chapitre 18, 5 chapitres de discours. Or, ces discours qui se reprennent pour approfondir tous, aller un peu plus loin dans l'unité de Jésus avec le Père, sont clairement des discours qui ont été ajoutés à des époques différentes, enfin à des moments différents ou par des gens différents. Ils ne sont pas reliés entre eux de façon tout à fait cohérente. Il y a des redites, il y a des approfondissements, voilà. Donc on parle aujourd'hui d'une école johannique avec sa trajectoire, et même, on le voit assez bien, d'une école dans laquelle les débats ont été nombreux et difficiles, parce que les lettres de Jean, notamment la première et admirable lettre de Jean, est une lettre qui témoigne d'un conflit. Alors, des conflits chez les premiers chrétiens, il y en a eu tout le temps. L'Église n'est pas en conflit aujourd'hui, au XXe siècle. Elle est née comme ça, dans le débat, et voilà, elle a continué comme ça. Or, dans l'Évangile de Jean et dans la lettre, il y a un exemple particulièrement frappant, c'est qu'on voit bien que l'Évangile de Jean lui-même a été porté à un moment donné par des gens qui avaient tendance à être de ce groupe des docètes qui considéraient que Jésus était du côté de Dieu mais n'avait jamais été vraiment un homme. Et la première lettre de Jean dit « Ceux qui ne disent pas que Jésus est vraiment un homme et a été voilà, ce Fils de Dieu que nous avons touché, il dit que nous avons pétri de nos mains, ceux-là, ils sortent, ils se trompent. » Et on voit qu'il y a la rupture dans la communauté, hein, avec une remise bien en vue du fait que, oui, il est Dieu, mais d'abord il a été homme. On voit bien qu'il y a eu des tas de débats comme ça. Voilà. Et l'évangile de Jean, et surtout l'évangile et les lettres, en témoignent. Voilà, donc, et cette mise par écrit de l'évangile de Jean, elle s'est faite dans la durée, probablement, voilà, on dit aujourd'hui, entre 90 et 95. Moi, je ne m'engagerai pas sur des dates trop précises. Qu'est-ce que vous voulez? On n'en sait rien. Voilà. Voilà, enfin, ce que je vais vous dire, c'est comment on décrit aujourd'hui la mise en progressive par écrit avec des documents plus anciens qu'on a perdus, même si on les reconstitue, c'est bien gentil, mais ça doit quand même être signé de gens du XXe siècle. Hein, on n'a pas la source Q, mais on a l'évangile de Marc. Avec ces documents, comment on a à la fois cette unité des quatre évangiles et cette étonnante diversité qui reflète absolument ce que je vous disais avant sur laisser pour dire ce que c'est que la résurrection et qui est ce Jésus de Nazareth, Seigneur, Fils de Dieu. Ça va? Ça, ça me paraît essentiel. Alors, si vous avez un peu de courage, maintenant, on avance vers, au fond, la façon dont le christianisme du IIe siècle et jusqu'au IVe, mais je n'irai pas jusqu'au IVe siècle, au fond, les chrétiens, cette poussière de petits groupes chrétiens qui s'est dispersée très vite dans l'Empire romain, il y a des choses extraordinaires. À Rome, ce n'est pas à côté de Jérusalem, hein. À l'époque, hein, on y allait ou à pied ou en bateau, un peu en bateau, mais enfin, quand il n'y avait pas la tempête. À Rome, dans les années 45-49, il y avait déjà des chrétiens. Il y avait déjà des chrétiens. Puisqu'on sait que l'empereur Claude, et c'est dans les Actes des Apôtres, l'empereur Claude a chassé de Rome un certain nombre de... Alors, il appelle ça des gens qui se soulevaient et qui faisaient du grabuge à l'instigation d'un certain Christos. Christos, c'est le même mot en grec. Hein, Christos se lit Christos. D'un certain Christ. Alors, est-ce que c'était des juifs messianiques? Est-ce que c'était des chrétiens nouvellement arrivés qui étaient venus à Rome pour dire « ça va bien l'empereur romain, mais nous, on a un curios qui va nettoyer tout ça ?» En tout cas, il les a fichus à la porte. Et témoins en sont le couple Aquila et Priscille, allez lire Acte 18, qui se réfugie au bout d'un certain nombre d'années de voyage à Corinthe et que Paul va rencontrer, avec lesquels il va voyager. Paul les rencontre en 51, le décret de Claude, on pense qu'il est en 49. Voilà. Un an ou deux après, ils sont installés à Corinthe, c'était des fabricants de tentes, etc. Les Actes des Apôtres en témoignent, Paul en témoigne. Voilà. Donc, les groupes chrétiens se sont répandus très vite, tout petits groupes. Quel lien avaient-ils entre eux ? Eh bien, les liens qu'on pouvait avoir à l'époque, on écrivait et il y avait des gens qui portaient les lettres. On voyageait par bateau quand la mer était ouverte ou à pied. Il ne faut pas s'imaginer un Paul à cheval, hein. Il n'y avait que les cavaliers romains qui étaient à cheval. Extrêmement cher, le voyage à cheval. Puis les chevaux, il faut les changer tous les 50 kilomètres. On fait pas, voilà, on voyageait à pied. Et n'empêche qu'il y a eu cette poussière de petits groupes partout et qui chacun, évidemment, on peut le comprendre, ou par groupe, se sont reconnus dans tel ou tel évangéliste, etc. Ce qui est étonnant aussi, c'est que très vite, il y a eu quand même des contacts entre les responsables de ces communautés, qu'on ne va pas appeler tout de suite des évêques. Hein. Le mot « surveillant » existe, mais pendant au moins jusqu'aux années 150, il y a des noms divers pour dire les responsables des communautés. Hein, il y a le surveillant, l'épiscope, il y a le diacre, qui est serviteur, il y a des anciens, il y a surtout des collèges d'anciens. Et ensuite, le mot « ancien » donnera le mot « prêtre », mais ça, c'est beaucoup plus tard. C'est le mot ancien qui donne le point. Voilà. Ces gens-là devaient s'écrire. En tout cas, on sait qu'à la fin du IIe siècle, les responsables de communautés s'écrivaient entre eux. S'écrivaient entre eux pour discuter, pour dialoguer. Alors, ce n'était pas des mails. Hein. Il fallait sûrement quelques mois pour... Mais qui discutaient pour dialoguer, pour échanger. Ben, pour échanger quoi ? Ben, quel texte lit-on chez vous ? Avec quel évangile ? Et donc, au cours de ce deuxième siècle, il s'est passé, donc entre 100 et 200, certainement un nombre de choses incroyables que nous avons du mal à mettre en ordre et à percevoir. Il s'est passé d'abord qu'il y a eu des chrétiens, qui ont lancé des espèces de groupes, de sectes, avec des propositions assez radicales. En particulier, débarquent à Rome. Vous voyez, on est à Rome. Vers 150, alors il n'y a pas de pape, hein, il y a un responsable de l'église de Rome, un évêque. Vers 150, un dénommé Marcion, qui arrive à Rome et qui fonde un groupe chrétien qui considère qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est un créateur démiurge méchant, peut-être juste, c'est à voir, mais enfin, en colère, vengeur, etc., et que Jésus nous a enseigné le Dieu de bonté et d'amour qui est le véritable. En tout cas, bien supérieur à l'autre. Et que donc, dans les écrits chrétiens, il faut rejeter complètement les écritures juives. Marcion, c'est celui qui a dit, fini avec le judaïsme et avec les écritures, nous n'avons que des écrits chrétiens. Problème qui s'est posé à Marcion. Tous les évangiles, ceux qu'on a gardés et les autres, parce qu'il y avait déjà des récits un peu dans tous les sens, sont complètement nourris d'Ancien Testament. Et donc, si vous ignorez l'Ancien Testament, vous n'y comprenez rien. Marcion a dit, pas de problème, on supprime tout ça. Je garde les lettres de Paul en supprimant toutes les citations de l'Ancien Testament et je garde quelques passages de Luc parce que là, il n'y en a pas. Et voilà. Et donc, Marcion a fait ce premier geste qui après va être celui de l'Église, de dire, on trie dans les Écritures et voilà moi ce que je garde. Alors, ça s'est mal passé. Hein. Marcion, 150... quelques années, il a dû arriver vers 140, en 150, il était déjà viré par les responsables de l'église de Rome. Mais son église a quand même continué pendant quelques temps. Et ça a certainement fait réfléchir les responsables d'église qui se sont dit, attention, attention, il faut que nous fixions un peu nos écritures. Eh oui, parce que fixer nos écritures, dans les années 150, à Rome, vous avez le philosophe Justin devenu chrétien, qui parle effectivement des mémoires des apôtres et qu'il dit même que pendant le repas du Seigneur, on lit les psaumes et on lit les mémoires des apôtres autant qu'on peut, mais qui ne dit pas encore que ce sont les évangiles. Il parle des mémoires des apôtres. Voilà. que ce sont nos évangiles. Donc, vous voyez. Alors, on sait, Marcion dit, j'en garde qu'un, on ne sait pas bien. Bon. Ça commençait à se fixer dans ces années-là. Et puis, il y a eu un autre personnage, peut-être moins dangereux que Marcion, parce que Marcion, bon, une fois qu'aujourd'hui, on sait bien que on ne peut pas lire notre Nouveau Testament sans l'Ancien, que les racines juives de Jésus et des évangélistes, ça éclaire tout. Un personnage qui est moins dangereux, mais qui est très proche de ce que nous pensons aujourd'hui, c'est le dénommé Tatien. Alors celui-là, il venait de l'Est, du Pontoxin, il était fils d'évêque, en tout cas fils d'épiscope, donc surveillant de communautés chrétiennes. Il débarque aussi à Rome, vers 170, et lui, il fonde sa petite église en ayant recousu ensemble les trois évangiles synoptiques. Il en a fondu en un seul pour faire, et même celui de Jean, les quatre, en fait les quatre. Il laisse tomber quelques morceaux de Jean, hein, les discours, il ne peut pas. En gros, il a recousu ensemble les quatre et il vous fournit une seule vie de Jésus. Et on a appelé cet ensemble le dia tessaron, qui en grec veut dire « à travers les quatre ». Il a tout recousu, a fait un travail terrible. Les contradictions, peu importe, il aligne tout et on a une vie de Jésus propre depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. Ça a duré quelques années et même un peu plus que ça. Il y a eu des communautés chrétiennes qui ont lu ce dia tessaron, d'abord rédigé en grec, on en a quelques morceaux, et ensuite traduit en syriaque. Mais en Syrie, il y a eu quelques communautés chrétiennes qui, pendant quelques décennies et peut-être même un ou deux siècles, ont lu cet évangile. Et puis un jour, les évêques ont dit « c'est pas possible ». Les évêques, les responsables de communautés, les chrétiens ont dit « c'est pas possible ». Et le dia tessaron a disparu. Alors on l'a plus en grec, on a trois ou quatre morceaux. On a le texte syriaque parce qu'il avait été lu et recopié plus longtemps dans les églises syriaques. Et celui qui fait la théorie de tout ça, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, dans son admirable livre « Contre les hérésies », où il se bat donc déjà contre des tas de déviances, hérésies, propositions de salut venues d'ailleurs, les gnoses, hein, qui ne sont pas chrétiennes d'abord, mais qui empruntent le matériel juif ou chrétien. Irénée de Lyon, qui, en 175, est très clair sur la question. Irénée, lui, il cite ce qu'il retient comme les grands textes chrétiens qui vont servir de référence, évidemment, les lettres de Paul, pas toutes, mais enfin les principales, et il dit clairement qu'il retient quatre évangiles, et qu'il y a quatre évangiles. Et je ne sais pas si je vous ai noté la phrase, j'aurais dû le faire, mais Irénée est formidable, il dit qu'il y a quatre évangiles, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quatre colonnes du monde, quatre points cardinaux, quatre vents, et donc quatre évangiles, terminé. Évidemment qu'il fallait quatre évangiles. Mais l'intérêt d'Irénée, c'est pas de dire ça, c'est de dire ni un seul, ni une multitude. D'accord ? Ni un seul. On ne peut pas avoir une seule vie de Jésus, le dia tessaron, et il le condamne fermement. Parce que sinon, et c'est dangereux, parce que nous, on en a plein de vies de Jésus, hein, enfin, il y en a eu plein au XIXe siècle, et on voit bien, elles sont toutes différentes. Sinon, vous êtes persuadé que vous avez la vérité, vous avez mis la main sur Jésus, vous savez qui il est. Il faut quatre documents différents pour que vous vous rendiez bien compte, vous autres bien bons chrétiens, qu'il s'agit toujours de témoignages différents, approximatifs, qui essayent de dire quelque chose en fonction des problèmes du jour de la communauté. Ça va ? Ça, c'est très, très important. On ne peut pas avoir une vie de Jésus. Il en faut au moins quatre, et ce sont les évangiles, nos quatre évangiles d'après Irénée. En même temps, à l'époque d'Irénée, et après ça a continué, avait fleuri sur le marché des tas de textes d'évangiles qu'on retrouve aujourd'hui, là aussi, le pseudo-évangile de Jacques, l'évangile des Hébreux, l'évangile de Pierre, l'évangile dont je vous ai lu un morceau, l'évangile de ceci, l'évangile de cela. Pourquoi ? Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et que nos quatre évangiles étaient-ils certainement déjà en formation, déjà un peu sur le marché ? Mais ils sont d'une sobriété extraordinaire par rapport à la vie de Jésus. Vous savez rien de l'enfance de Jésus, vous avez deux petits récits, l'adolescence, il y a bien la montée au temple chez Luc, mais on ne sait rien. Enfin, vous savez extraordinairement peu de choses. Où est-ce qu'il habitait ? Il dit rentrons à la maison. Où ? À Capharnaüm. C'est extrêmement succinct. Or, la nature a horreur du vide. les chrétiens du IIe siècle, ils ont voulu savoir. Et alors, il est né de la Vierge Marie, alors comment ça s'est passé, alors qui a vérifié, etc. Et on se met à raconter tout ça. Et Jésus a grandi, et après, il y a eu des évangiles où le petit Jésus, à l'école, eh ben, il était déjà Dieu. Alors, quand les copains lui faisaient des crasses, il regardait le copain, et le copain tombait mort. Eh ben, évidemment, évidemment, puisqu'il était Dieu. Voilà, des histoires à tomber par terre, mais il fallait raconter. On essaie. Or, ça, effectivement, Irénée dit non. Non. Ça, c'est très bien, mais on ne lit pas. On ne lit pas chez nous. On ne lit pas chez nous. Nous, on s'en tient à ces quatre-là. Donc, ni trop, ni pas assez, si vous voulez. Ni trop, ni n'importe quoi. Voilà. Et c'est donc à partir d'Irénée que se met en place cette idée qu'il n'y a vraiment que quatre évangiles. Les arguments d'Irénée, outre ceux que je vous ai dit, c'est la tradition apostolique. Il faut qu'il se rattache à un disciple de Jésus. Parfois un petit peu de façon... Alors Luc se rattache à Paul, Marc à Pierre, Matthieu c'est Matthieu, et Jean c'est Jean, bon très bien. Mais c'est surtout, et c'est ça la grande règle d'Irénée, c'est surtout qu'ils sont conformes à la règle de foi. Et qu'est-ce que c'est que la règle de foi? Eh bien il le dit très bien. C'est ce sens inné de la foi qu'ont les fidèles et leurs évêques ou leurs surveillants. C'est-à-dire que les chrétiens, de par leur foi, sentent très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Ils ne savent pas tout sur Jésus, ils ne sont pas capables de faire un cours de théologie, mais ils sentent bien que ça, ça ne va pas, toutes ces histoires des copains du petit Jésus qui tombent morts, ça ne va pas, ça ne va pas, ce n'est pas dans notre foi. Ils sentent ça, et c'est ça qu'Irénée appelle la règle de foi. Cette espèce de tradition, on l'appelle aujourd'hui le sensus fidei, cette espèce de tradition des différentes églises chrétiennes où on se rend compte, où on échange, et où on dit, ça, ça va, ça, ça ne va pas. Ça marche? Voilà. À l'époque d'Irénée, on a, non pas un Nouveau Testament complet, mais on a les quatre évangiles. Les actes des apôtres sont là, il en parle peu, mais visiblement, on commence à les connaître. On a évidemment bonne partie du corpus paulinien. Il va manquer les Hébreux, dont on ne sait pas si c'est de Paul, pas Paul, il y aura des débats, etc. Mais petit à petit, il se met en place... avec un processus, et ça c'est quand même très intéressant, d'échange entre les responsables de communauté, et on a leurs lettres, hein, on a certaines lettres, et elles sont marquées ces lettres, ça vient d'être découvert dans les 30 années qui arrivent, hein, qui sont passées là, ces 30 dernières années. On a retrouvé des lettres de responsables de communauté de l'époque, ou au IIIe siècle, Denis de Corinthe, etc., qui sont marquées dans un coin d'une petite croix. Une petite croix qu'on appelle souvent le signe christique, c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient entre eux. Et on a ces lettres où ils échangent sur des tas de choses, la foi, les textes, les attitudes à avoir sur des problèmes de liturgie, sur des problèmes de vie quotidienne, de morale, etc. Ça va assez vite et c'est assez fascinant, même si effectivement il y a encore beaucoup de recherches qui est en jeu. En tout cas, on considère que, soit à la fin du IIe siècle, mais ce n'est pas sûr, soit au courant du IIIe siècle, et c'est plus sûr, l'essentiel des textes de notre Nouveau Testament sont à peu près mis en place. À peu près mis en place, au moins pour les grandes masses, sont Évangile, Actes des Apôtres, Lettres de Paul, et puis ensuite les Lettres de Jean, ça c'est sûr, elles y sont tout de suite. Il y a des lettres qui sont longtemps discutées. Jacques, Jude, que vous ne lisez jamais. Bon. La lettre de Jacques, oui, la lettre de Jude. Vous... L'Apocalypse a été dans certaines régions tout de suite admise, dans d'autres longtemps discutée. Et puis il y a des textes que vous ne lisez pas, mais qui jusqu'au IVe siècle ont été dans le canon du Nouveau Testament, le pasteur d'Hermas, qui est un texte que vous ne lisez pas, à tonalité un peu gnostique, mais sur, au fond, la figure de l'Église en formation, qui est l'Église voulue par Dieu. Dans le grand manuscrit de l'Ancien et du Nouveau Testament, alors là, je dis l'Ancien Testament, ce n'est plus les Écritures juives, hein, c'est la Bible grecque que les chrétiens ont récupérée. Le grand manuscrit du début du IVe siècle, demandé par Constantin à Eusèbe de Césarée, qui donne donc tous les textes accueillis par les chrétiens à cette époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, s'ajoute l'épître de Barnabé, le pasteur d'Hermas, comme si ça en faisait partie. Et puis à d'autres endroits, ils n'y sont pas, et avec les siècles, ça va tomber. En 367, Athanase d'Alexandrie, qui est un évêque qui a eu beaucoup de problèmes, il a été exilé plusieurs fois, il y avait des bagarres hein, aussi entre eux, envoie une lettre festale. La lettre festale, c'est une lettre écuménique pour une région, hein, pas plus, pour Pâques, où il donne une liste du Nouveau Testament qui est à peu près semblable à la nôtre aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, ça se fixe. Ceci dit, il n'y a pas de décision officielle. Ce n'est pas Rome qui a dit, attendez, le Nouveau Testament, une liste du Nouveau Testament. Hein, le Nouveau Testament, c'est ça. Il n'y a aucune liste pour tout le monde et officielle. Et les premières listes officielles venues d'en haut, venues de Rome, des écritures chrétiennes pour le monde catholique, vous savez de quand elles datent ? Concile de Trente. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 1200 ans. Et le débat avec les protestants pour que ça se fixe. Voilà. Ils ont vécu avec ce qui leur correspondait le mieux et qui, au fond, correspondait aussi à ce que nous avons. Voilà. Alors, là, j'ai la liste, mais vous l'avez sur votre texte. Je termine, si on peut dire, j'ouvre, hein, parce que j'ai dit des choses, mais on pourrait en dire 100 000 autres, que par un texte de Paul, peut-être encore plus ancien que celui des Galates que je citais tout à l'heure, parce que la première aux Corinthiens, elle a certainement été écrite un peu avant, alors 52, 53, 54, pas plus tard. Paul dit, « Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu et Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » Un seul Dieu, un seul Seigneur, on le proclame encore. Et nous croyons que Dieu est un. Et qu'en Dieu, il y a ce mouvement d'amour qui fait qu'il est Dieu Père et Dieu Fils et Esprit Saint. En tout cas, la question est posée. Vous irez suivre le cours de Bernard Clazen et d'autres si vous voulez encore la mouliner, mais je pense qu'on peut la mouliner toute sa vie. Voilà, moi je m'arrête là et j'écoute vos questions. Nous avons encore 6 minutes pour les questions. Comment ? Ah, mais elle y est sur votre livret. Vous avez tout, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes épuisé ? Oui, oui. Non. 1 Corinthiens 15 et c'est tout. À mon avis, il cite en 1 Corinthiens 15 comme souvent une proclamation de foi, un kérig qu'il n'a pas fabriqué lui-même. Il l'a reçu. D'ailleurs, il le dit, je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Ça existait déjà. Et le coup de force de Paul, c'est qu'il s'introduit dans le kérig. Et à moi aussi. Enfin, c'est lui. C'est le témoin qui s'introduit dans le kérig. Ce qui est très fort. Parce qu'au fond, ce qui est vrai, c'est que le témoin fait partie de la proclamation de foi. Il est lui-même proclamation de foi, et c'est ça la foi chrétienne. Le témoin, c'est sur sa parole que les autres vont croire. Mais c'est, à mon avis, pas de Paul. Ça vient d'avant. On n'a pas d'autre... Oui ?
Oui, dans la dernière feuille, là où vous avez la liste des textes du Nouveau Testament, oui. À la fin, vous parlez de deutéro-paulinienne et trito-paulinienne, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire des textes qui, depuis très très longtemps, depuis à peu près toujours, 2e siècle, 3e siècle, ont été considérés comme écrits par Paul et dont la recherche actuelle montre qu'en fait, ce sont des disciples de Paul. Pour les deutéro-pauliniennes des années 70 à 80, pour les trito-pauliniennes, c'est très laid, mais en gros pour Tite et Timothée, surtout un Timothée et Tite, c'est des lettres qui sont faites par, écrites par des disciples de Paul, mais de la troisième génération, au tournant à la fin du 1er siècle. Et ça se voit très bien par le monde auquel elle s'adresse et la façon dont elle se situe par rapport à ce monde, qui est un monde qui est en train de changer et qui n'est plus du tout le monde de Paul. Et là, à peu près tout le monde est d'accord. Ça va ? C'est clair ?
Est-ce qu'il y a des textes anciens comparables aux évangiles ou aux lettres de saint Paul ? Qui aurait été perdu, mais dont nous aurions connaissance. Dans les écrits de l'Antiquité, nous avons perdu une grande masse.
Par exemple, chez les écrits chrétiens, la lettre à Dionysiète a été retrouvée récemment, il y a un ou deux siècles. Dans les écrits de l'Antiquité, en gros, si vous voulez, ils nous ont été quand même transmis tardivement, Aristote par Cordoue et les Arabes, Platon au Xe, XIe siècle. En fait, les témoins manuscrits des textes de l'Antiquité sont beaucoup plus récents que les témoins manuscrits des Évangiles. C'est XIe siècle par rapport à l'année 200. Donc, il en a peut-être des tas de perdus, mais on ne les a pas retrouvés, des témoins des textes anciens. On n'a plus que ceux qu'on a retrouvés à partir du XIIe siècle. Donc, à part dans le monde chrétien, je ne connais pas immédiatement d'exemple. Si j'en trouve un, je vous dirai. Mais voyez pourquoi. Le trou dans la transmission était plus grand. Donc, s'ils sont perdus, ils sont perdus. Bon, allez. Bonne soirée et bon week-end. Voilà. Alors, si quelques-uns peuvent aider à mettre en place les chaises et les tables, ça serait très, très gentil.